Bonjour à chacun, chacune. Je vous promets de faire un effort pour parler lentement, puisque ça prendra peut-être un peu plus de temps. Non, c'est pas vrai. En général, si je parle vite, c'est parce que je veux faire vite. Vous avez vu dernièrement, enfin depuis mercredi, qu'il y a le festival de Cannes, pas loin d'ici. Donc, je sais pas si vous avez regardé la montée des marches, si ça vous passionne ou si ça vous intéresse. Personnellement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Mais je suis toujours étonné. J'ai ma sœur qui habite à Cannes et je suis toujours étonné de voir en fait l'engouement. Et c'est aussi ce qu'il nous rapporte comme impression, de voir comment un événement comme ça ou peut susciter chez des gens, chez une foule en tout cas, la capacité, la volonté d'attendre parfois 5 heures, 6 heures, voire même une journée de 12 heures, on va dire, allez, de 8 heures du matin, pour attendre, pour espérer voir des stars, voir des gens comme ça, sans même pouvoir rentrer dans le monde du festival. Et c'est ça que je trouve le plus dommage. Moi, ce qui m'intéresserait personnellement, c'est de pouvoir rentrer dans le festival, voir les films, parce que finalement, ce n'est que ça, hein. Un festival, c'est la possibilité de voir des films. Et en fait, ma sœur qui habite à Cannes, non, toujours pareil, a la possibilité d'entrer dans ce festival grâce à un petit carton qu'on appelle une accréditation. Et cette accréditation permet donc l'entrée à tous les films gratuitement. Et grâce à un petit carton comme ça, avec une photo simplement, on accède, n'est-ce pas, à un événement mondial aujourd'hui qui est couvert par beaucoup de télévision. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une accréditation particulière, évidemment, une accréditation pour nous les chrétiens. Je vous propose donc la lecture d'un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 7, et je lirai des versets 21 à 29. Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 29. Si vous ne reconnaissez pas la traduction, j'aime bien changer de traduction. Là, je crois que j'ai pris la Français courant pour avoir des mots plus explicites. Donc Jésus parle et dit: « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront: Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes. C'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais. C'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles, pardon. Ne le sais-tu pas? Alors je leur déclarerai: Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, et elle s'est écroulée, et sa ruine a été complète. » Alors juste pour fixer le contexte, en fait, Jésus vient de donner le sermon sur la montagne. Alors nous qui venons de passer une grande période de campagne électorale, c'est un petit peu comme si Jésus faisait sa campagne, entre guillemets, électorale, ou l'exposait, son programme, tout ce qui fait la teneur de son enseignement. Il a parlé longuement, il a parlé avec beaucoup d'images. C'est dans le sermon de la montagne qu'on trouve le fait que les croyants sont le sel de la terre, la lumière du monde, qu'il faut tendre la joue, l'épisode de la paille dans l'œil du voisin, du prochain, les béatitudes, heureux ceux qui... Heureux, les simples en esprit, toutes ces phrases, le Notre Père également. Et puis, Jésus a partagé aux gens donc, qui l'entendaient, entre guillemets, pour la première fois, sa vision sur ce qui est de la prière, sa vision sur ce qui est du pardon des offenses, le pardon des péchés. Et donc, il s'apprête à clore le discours avec cette parabole donc, qu'on vient d'entendre sur les deux hommes qui bâtissent leur maison, l'un sur le sable, l'autre sur le roc. Mais avant, il livre une avant-dernière pensée, et c'est sur cette pensée que j'aimerais m'arrêter avec vous ce matin. Et donc cette pensée s'adresse en toute logique à ceux qui viennent d'entendre ce discours, le message de Jésus. Et donc, je vais simplement le reprendre, il dit: « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors ce qui m'a semblé être, moi, la clé de voûte un petit peu de cet extrait, ce que l'on devine en filigrane dans ce passage, c'est l'obéissance. Et en fait, l'accréditation dont je vous parlais tout à l'heure, pour ma part, je pense que l'obéissance est une accréditation pour le royaume des cieux. pas pour le festival de Cannes, mais pour le royaume des cieux, pardon. Jésus s'arrête pour dire à un moment donné, avant de clore, il s'arrête pour dire à un moment donné aux gens, c'est bien d'écouter, mais ça ne suffit pas. Écouter seulement, ça ne suffit pas. C'est maintenant faire qui compte, et précisément d'obéir. Et ça revêt aux yeux de Jésus, il s'arrête, et ça revêt aux yeux de Jésus une importance, et c'est sur cette importance que j'aimerais qu'on se questionne. Alors je vous propose un plan en trois parties, en fait. Je voudrais d'abord reprendre avec vous ce qu'est l'obéissance, qu'est-ce que ça veut dire, quelle en est la définition, qu'est-ce que nous, ça veut dire pour nous l'obéissance, comment on le ressent, on va dire. En deuxièmement, j'aimerais, après ça, qu'on voit ensemble pourquoi Jésus s'arrête sur l'obéissance, pourquoi ça revêt une importance à ce point, en tout cas capital, quoi. Et puis ensuite, quels sont les enjeux de l'obéissance dans notre vie, de la non-obéissance, qu'on appellera aussi la désobéissance. Alors, en regardant dans le dictionnaire, d'abord, j'aimerais dire qu'en France, je pense qu'on sous-estime le mot obéir. Je voyais un petit sourire là, c'est pour dire qu'en fait, personnellement, c'est pas un mot très plaisant. Quand j'ai dit à ma femme de quoi j'allais parler, elle a pas tellement rebondi, quoi, hein, on va dire. Et je suis pareil qu'elle. Et je pense que tous les Français sont pareils. Ceux qui ne sont pas français dans la salle, sentez-vous libres. Alors, la définition de l'obéissance, ou du verbe obéir en tout cas, c'est se soumettre. Voilà, je vais vous dire pourquoi ça vous semble négatif. C'est qu'en fait, obéir, ça veut dire se soumettre. Se soumettre à la volonté de quelqu'un, faire ce qui est commandé. Voilà, le mot. Et donc, dans la perspective de l'exécution d'un acte, on dit... Fait ça, il faut le faire. Obéir, ça veut dire qu'il faut le faire. Et il y a aussi, après ça, une obéissance qui nous est à chacun commune, en tout cas ici sur la Terre, c'est l'obéissance à une loi, à une force, à un principe. Alors là, si on est tous assis et qu'on tient tous, c'est parce qu'on obéit, sans le savoir, aux lois de la gravité, par exemple, de la pesanteur. Et donc, il y a dans l'obéissance, je viens de le dire, une connotation assez négative. Parfois même, qui est une connotation assez terrible, dans le sens aussi du... Je pense à panurge, au côté panurge du terme, c'est-à-dire le fait d'obéir sans se poser de questions. Je repense par exemple aux épisodes terribles de l'histoire avec un grand H, où des gens ont obéi aux ordres pendant la dictature, pendant le régime nazi par exemple. Et quand on voyait donc le procès de ces dignitaires nazis ou d'autres, hein, ils disaient « mais je n'ai fait qu'obéir aux ordres », sans avoir une once de responsabilité dans leur tête. Et obéir aussi, ça peut vouloir dire ça, c'est vrai. Mais quand on obéit, je l'ai dit, on obéit à une loi, on obéit à un commandement, à un ordre, on obéit même à des horaires, à des contraintes. Pour ma part, je sais que ça me coûte. Je fais des efforts, mais c'est vrai que c'est dur d'obéir à ces choses-là, et c'est dur d'obéir tout court. J'ai la joie d'avoir des enfants, et je constate, dans ma joie d'être parent, c'est ça aussi l'envers du décor, que pour mes enfants, le plus dur souvent c'est d'obéir. Ils veulent bien faire un tas de choses du moment que je ne froisse pas trop leur volonté, mais c'est vrai que pour eux, cette notion d'obéissance, à un moment donné, de s'arrêter et de se plier à l'ordre que l'on donne, ma femme et moi, d'apprendre le non, d'apprendre le cadre, d'apprendre la soumission, c'est difficile pour eux. C'est quelque chose vraiment que je vois qui leur coûte beaucoup. Je le vois dans leurs yeux en tout cas, même si c'est facile pour moi de les faire obéir, mais je vois que dans leurs yeux ça leur coûte. Et pourtant, paradoxalement, c'est quelque chose qu'ils recherchent. Dans le travail que je fais, je m'occupe des enfants en difficulté, j'ai eu dernièrement un entretien avec des parents, et puis pour un enfant donc, qui a du mal effectivement, avec les contraintes, avec ce genre de choses, et on a découvert ensemble que effectivement, c'était un enfant qui remettait systématiquement en cause les paroles de ses parents. Et elle dit, la maman disait, mais elle disait qu'elle disait à son fils, mais crois-nous, s'il te plaît, crois-nous. Et en fait, l'enfant remettait tout le temps tout en cause. Où est ma poupée? Elle est sur le lit, je ne te crois pas. Elle allait systématiquement vérifier. Et ce qui, au début, aurait dû s'avérer être pas grand-chose, peut-être une petite angoisse, finalement, a fini par devenir un climat d'angoisse pour le petit, ce qui fait qu'il est malheureux. Et donc, en fait, l'obéissance lui aurait été salutaire. Et là, en fait, il est malheureux, il est angoissé, il n'est pas bien. Et je rebondis justement sur cet épisode pour dire qu'il y a quand même dans l'obéissance une connotation apaisante, une connotation sécurisante même. En fait, j'ai gardé aussi en réserve donc d'autres définitions du mot obéir, parce qu'on peut chercher très loin, les mots, c'est ça la richesse aussi. C'est qu'il y a dans le sens d'obéir le fait de se conformer, le fait donc d'épouser une perspective, d'épouser une volonté, de céder, d'abandonner à un moment donné, de s'accorder aussi. Obéir, c'est s'accorder. Et de permettre quelque chose. Et c'est vrai que je pense que la connotation sécurisante, ça vient du côté où on arrête de lutter. Où finalement, à un moment donné, on dépose les armes, on cesse de discuter, on arrête de négocier, on s'abandonne, on arrête. Et on va, bon gré mal gré, on va accepter de faire ce qui nous a été demandé. Et c'est vrai qu'on voit socialement, par exemple, quand il y a un conflit, alors après ça, loin de moi, toute prise de position politique ou comment dire, d'avoir un avis dans ce sens ou pas, mais lorsqu'il y a une grève, par exemple, ou une manifestation, ou donc quelque chose qu'il y a, on voit tout de suite une espèce de... Donc il y a un fourmillement, une énergie, un conflit, une ambiance donc assez négative, et quand tout rentre dans l'ordre, quand finalement l'un des partis accepte qu'il obéit quelque part, il y a un climat de paix qui s'installe. Quand j'ai fait le service militaire, alors ma femme dit que j'ai fait le service des vacances, en fait, pendant un an, celle qui le dit, mais c'est vrai que donc on arrive comme ça dans un système où donc là bon bah vous avez compris que dans l'armée ou pour ceux qui sont militaires bon bah obéir ça a un sens en tout cas et étrangement ça m'a semblé facile. En fait je venais moi juste de passer une année difficile parce que c'était ma première année d'enseignement pardon et en fait j'étais en questionnement permanent parce que bah voilà quand on commence bah on débute on est là on se cherche on se demande et tout on se pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que moi, qui étais dans questionnement permanent, d'un coup, d'arriver, de n'avoir qu'à obéir, c'est-à-dire arriver à 8h15, faire ci, faire ça, etc., d'aller manger à 11h30, de prendre un coca, c'était facile. Et je le reconnais. Et puis là, je vais me faire des ennemis dans la gente féminine, mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit fleurir sur toutes les couvertures des magazines féminins, pas chez les hommes, hein. Un tas d'encouragements à faire des régimes alimentaires. Et c'est vrai que, en tout cas, beaucoup de gens, on va dire, il y a des fois l'obligation de faire un régime thérapeutique, hein, ça, il n'y a pas que les femmes, hein. Hein, on peut tous vouloir maigrir ou tous vouloir en tout cas se sentir bien dans notre corps. À un moment donné, en fait, dans le régime, il y a quelque chose de... On accepte, quoi, je veux dire, c'est même comment dire, volontaire et même agréable, parce que, bon, on accepte ses contraintes, on y fait confiance, on s'abandonne entre les mains de ces commandements-là, entre guillemets. Et je finirai juste par rapport à la définition du mot obéissance, pour dire que l'obéissance, il y a des côtés un petit peu sympas, entre guillemets, l'obéissance, ça peut être simplement l'observation, l'acceptation, et puis la dépendance aussi. Et l'obédience. Je ne savais pas qu'obédience, ça voulait dire la même chose que dépendance. Alors, on arrive à cette deuxième question. Pour quelle raison, à ce moment-là, Jésus s'est-il arrêté? Pourquoi dit-il que c'est important d'obéir? Et pourquoi, donc, évidemment, nous devons obéir? Alors, je reprends simplement le verset qui m'intéresse. Quand Jésus dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui obéissent, entre guillemets. » Alors, une des premières choses qui est importante dans la bouche de Jésus, c'est obéir, c'est important, parce qu'obéir, c'est ça qui sauve. Écouter, dire, ça ne sauve pas. Et c'est vrai que si Jésus est venu sur la terre, c'est pour que les hommes soient sauvés. C'était sa mission, c'était tout l'objet d'ailleurs de sa mission, de son programme électoral, en tout cas lui était clair là-dessus, c'était ça. Et donc, je rappelle un passage donc dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 47, quand il dit « Je ne suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Et il dit aussi, à un autre moment, dans le suite d'un passage, Jean, chapitre 8, verset 24, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que moi je suis. Vous mourrez dans vos péchés. » Alors, simplement, déjà, la première obéissance, est-ce que ce n'est pas tout simplement de croire, comme un enfant, d'abandonner la lutte? Je reprends simplement la définition tout à l'heure que j'ai donnée, de cesser la discussion avec Dieu, de cesser de négocier avec lui, de déposer les armes devant lui, devant Dieu, et admettre qu'il existe. Admettre non seulement ça, mais en plus qu'il est unique, que c'est un Dieu créateur de toutes choses. Capituler, obéir, c'est peut-être aussi capituler devant la réalité d'un Dieu, donc qui a créé, comme j'ai dit tout à l'heure, l'homme, qui l'aime, capituler devant l'idée que Dieu s'est rendu proche de l'homme, a bien voulu se rendre proche au point qu'il s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'obéir, ce n'est pas croire aussi à accepter de ne plus négocier le pardon de nos péchés? Accepter sans clause, sans petit... Sans, vous savez, dans les contrats, des fois, il y a des tout petits trucs, des petits caractères qu'il est important de lire, parce que des fois, il y a des petites choses cachées. Mais là, non, les choses sont claires. Croire, c'est ne plus négocier le pardon des péchés, accepter sans clause la justice de Dieu, qui dit que Jésus a pris sur lui les péchés. de l'homme. Si je suis un homme, si je suis une femme, je suis concerné. Jésus a payé. C'est ça ce que dit Dieu. Et croire, à ce moment-là, ça veut dire simplement être sauvé, avoir la vie éternelle. Et combien, c'est important de, je me suis aperçu en faisant ce message à quel point Jésus ordonne à ses disciples, il leur dit sans arrêt, croyez-moi, gardez mes commandements. Et je vais voir avec vous simplement un petit passage, le passage d'un scribe, en fait, où Jésus donc vient de parler avec des sadducéens qui sont là à l'empoisonner dans ses discours avec des questions sans arrêt, etc. Et un scribe a suivi à l'insu donc cette discussion, et il va voir Jésus, et il lui dit, « Maître, si j'ai bien compris, tu dis avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Tu dis que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, ainsi qu'aimer son prochain, comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Il arrive à cette conclusion-là. Et Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui poser de questions. Et ce scribe a l'honnêteté de dire, d'arriver un peu à une conclusion qui l'expose. Mais à l'image de ce scribe, combien d'hommes, combien de femmes vont rester, ou peuvent en rester, à une connaissance intellectuelle des choses de Dieu. Des fois, une connaissance impressionnante, hein, de l'ordre de l'érudition, mais Jésus répond, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et ces gens restent sur le seuil du royaume des cieux, de même que ces gens qui vont au festival de Cannes vont rester sur le seuil, sans l'accréditation. On peut penser également au jeune homme riche, qui est là, qui connaît plein de choses, il avance d'ailleurs cette bonne connaissance, il avance même une estime de Jésus en disant, bon maître, machin, etc. Mais lui, en fait, il reste à la porte aussi. Parce qu'au moment où Jésus lui demande de donner suite, d'obéir, il ne le fait pas. Et j'ai une image que j'ai lue d'un commentaire qui dit qu'au ciel, on peut voir les oreilles et les langues de tous ceux qui se sont contentés d'écouter la bonne parole, ou même d'en parler, ou même de la proclamer. Image assez forte. Et pour nous qui avons obéi alors? Parce que là, c'est vrai que dans le contexte, Jésus s'adressait à des gens qui étaient donc là, en direct, on va dire, en prise avec le discours de Jésus, il fallait maintenant qu'il fasse un choix. Mais ce discours est encore actuel pour les gens qui découvrent le message de Jésus. Mais pour nous qui avons déjà obéi, nous qui sommes sauvés, nous qui sommes entrés dans la relation avec Dieu aujourd'hui, nous qui lisons ce passage, il y a quand même un rappel. Obéir, c'est un effort volontaire, quotidien, tous les jours, où finalement on accepte de plier notre volonté à celle de Dieu. On lui laisse les commandes. Et comme je le disais tout à l'heure, obéir, c'est l'accréditation pour entrer dans le plan de Dieu, pour entrer dans la communion avec Dieu, pour entrer dans une intimité même, dans l'intimité filiale. C'est vrai que Jésus nous a appris le Notre Père, et c'est vrai que souvent, dans la Bible, on voit ces images où Dieu est notre Père, et nous sommes les enfants. Et finalement, le salut, est-ce que ce n'est pas la présence de Dieu ? Et la présence de Dieu déjà sur la terre, et la présence de Dieu éternelle, lorsque nous serons au ciel. En deuxièmement, j'ai envie de dire, pourquoi c'est important d'obéir ? Bien, c'est important d'obéir parce que Jésus, comme le dit Jésus, obéir c'est plaire à Dieu. Au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, c'est en ton nom que nous avons été prophètes, c'est en ton nom que nous avons chassé des esprits mauvais, c'est en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles, ne le sais-tu pas ? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Alors dans ce verset, il y a quelque chose de rassurant, c'est qu'on voit des faits d'armes. On voit des gens qui ont chassé des esprits, on voit des gens qui ont prophétisé, qui ont accompli de nombreux miracles. Combien d'entre nous ici ont fait ne serait-ce qu'une chose de ces trois choses, de ces trois choses qui sont écrites ? Eh bien, je vous rassure, si vous ne l'avez pas fait, en tout cas c'est mon cas, ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. Ce ne sont pas les faits d'armes, ces coups d'épée comme ça, ces feux d'artifice qui plaisent à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est quelque chose qui est à la portée d'un enfant. C'est quelque chose qui est à la portée de n'importe qui. C'est un geste simple, une décision simple en tout cas. C'est de faire sa volonté, d'obéir. Quand j'ai fait ma première colo, la colo, la seule en tout cas qui valait le coup d'être faite dans la mesure où j'ai rencontré ma femme, eh oui, je le dis à ceux qui veulent, je suis une petite pub à Batania là, il y a le petit côté comme ça aussi dans les colonies. Bon enfin, c'est pas à chaque fois, hein. Enfin. À l'époque, j'étais en grosse négociation avec Dieu, en tout cas, et c'est vrai que je me rappelle quelqu'un qui disait, qui restait un ami, Olivier Oignan, qui disait tout le temps, simple et direct comme l'évangile. Il sortait ça comme ça, comme un slogan, systématiquement. Bon, au premier coup, j'ai pas toujours fait attention, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'a énervé, parce que je me dis, simple et direct. deux mots qui m'énervaient déjà, comme l'évangile. Et c'est vrai que pour ma part, je trouvais que l'évangile n'était pas simple et direct. Je trouvais qu'au contraire, c'était un peu compliqué, très compliqué. Et c'est vrai que du temps a passé, j'ai arrêté de négocier. Et c'est vrai qu'en revenant maintenant sur ce passage, en tout cas en étudiant ce que ça veut dire obéir, je m'aperçois qu'effectivement, l'évangile est simple. Et effectivement, l'évangile est direct. Ce qui n'est pas simple, parce qu'il y a quand même, j'ai pas toujours tort non plus, hein, ce qui n'est pas simple, c'est le coût. Ce que ça coûte d'obéir. Ou les conséquences qu'il va y avoir dans notre vie. Peut-être même des fois les dévastations que ça va peut-être produire d'obéir à Dieu. Et je peux témoigner que Dieu accepte nos discussions. Je pense que Dieu nous laisse cheminer, que Dieu nous laisse nous poser des questions, nous laisse. C'est pour ça que j'ai fait rester les jeunes aujourd'hui. Là, c'est à moi qu'il faut en vouloir si vous êtes ici, vous n'êtes pas sortis. Je pense aux jeunes de moins de 20 ans, hein, vous ne sentez pas tous visés. Je pense que Dieu accepte notre discussion, peut-être même nos négociations. Mais il est une chose que Dieu n'accepte pas, c'est si à un moment donné, si on doit signer ou pas en bas du contrat. Si à un moment donné, Dieu ne va pas modifier ce qu'il propose. Dieu va simplement nous demander si on obéit ou si on n'obéit pas. Et c'est vrai que ça, c'est simple. Les conséquences ne le sont pas, mais ça, c'est simple. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, comme je le disais juste avant, qu'en fait, obéir, ça peut amener la persécution. Que là, effectivement, dans le pays où nous habitons, comme on l'a dit souvent, c'est vrai qu'obéir c'est facile quelque part. Il n'y a pas une persécution immédiate juste après. Pourtant, des fois, obéir, je pense à d'autres choses, mais obéir ça peut nous amener la solitude dans une équipe de travail, sur notre lieu de travail, dans nos amitiés, dans notre lycée, dans notre école. Ça peut amener le rejet même. Ça peut nous amener à abandonner des certitudes. Ça peut nous amener aussi à éveiller le regard des autres, un regard pas forcément bienveillant. Et j'aimerais aussi voir avec vous un épisode de la vie de Saül qui se trouve raconté dans le premier livre de Samuel, où Dieu va ordonner à Saül d'aller faire quelque chose de très difficile. Un passage qui resterait à lui-même, encore une fois, l'objet d'un message, je vais simplement le résumer, où Dieu demande à Saül d'aller frapper les Amalécites. Il demande à Saül, voilà, tu vas aller frapper le peuple d'Amalek et tu vas le vouer à l'interdit. Alors derrière, cette belle forme, vouée à l'interdit, qui peut paraître assez propre, il y a quelque chose d'assez horrible dans le sens où il s'agit tout simplement d'un massacre, de massacrer donc hommes, femmes, enfants, bétail, et de vouer, d'éliminer de la surface de la terre tous ces gens. Et Saül donc ne va pas faire complètement ce que Dieu lui demande. Il va garder une partie, il va massacrer certaines personnes, certaines choses, certains bétail, mais il va garder une partie du butin, entre guillemets, en tout cas parce qu'il s'agit du bétail, il va le garder en vue de l'offrir à un sacrifice. Mais Dieu va s'exprimer par la bouche de Samuel, et je lis dans le passage 15, verset 22, Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et dans les sacrifices ?» comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et j'arrête là, parce que c'est vrai que c'est un passage trop long, mais il est un fait, c'est que Saül perdra sa royauté, il perdra même l'Esprit de Dieu dans cet épisode. Et je vous promène là, mais c'est vrai que dans l'évangile de Jean, Jésus dit lui-même, « Celui qui retient mes commandements et leur obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime, je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. » Tout ça pour dire que obéir, donc c'est plaire à Dieu et c'est la meilleure des façons d'attirer l'amour de Dieu sur nous, en tout cas son regard bienveillant. Obéir aussi, pourquoi est-ce important? Parce qu'obéir, comme Jésus le dit dans sa parabole, c'est construire solidement et se construire solidement. Donc je lis le passage, « Ainsi quiconque écoute ce que je viens de dire, obéit donc, et le met en pratique sera comme un homme intelligent. Il a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. » Jésus affirme, et c'est un choix aussi pour nous, d'obéir ou de ne pas croire, de croire ou de ne pas croire cette parole, mais Jésus affirme que l'homme qui fait le choix d'obéir, qui fait le choix, donc, si on prend un autre sens d'obéir pour être encore plus conscient de ce que ça veut dire, qui accepte de conformer sa vie aux paroles de Jésus, à la réalité d'un Dieu, à la réalité qu'il y a une vie après la mort, à la réalité que le péché, que nous sommes pécheurs, qu'il y a un pardon possible, qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut aimer Dieu, qu'il faut rechercher le bien, que notre vie sur terre n'a de sens que dans celui-là, en tout cas, c'est de rechercher le bien. Fais de sa vie une construction solide, parce qu'elle est fondée sur le roc, même si, aux yeux des autres et aux yeux du monde, les principes que je viens de dire sont ineptes, sont absurdes, n'ont aucun sens, et même, c'est même le contraire de la réussite. Parce que lorsque viennent les épreuves, les afflictions, la souffrance, les tempêtes de la vie, et nous avons eu avec le témoignage de Willy ce matin, nous avons vu à quel point, effectivement, ces choses sont réelles, sont possibles, mais ces choses, ces souffrances sont des indicateurs de la solidité d'un édifice. Finalement, les deux maisons peuvent tenir dans cette histoire, dans cette parabole. Ce qui fait la différence, c'est la tempête. Ce qui se passe après la tempête, en tout cas. Mais toujours à cette condition. Cette condition, c'est d'obéir, d'accepter, de déposer les armes, de préférer, dans des moments où on aimerait plutôt notre sagesse, de préférer la sagesse de Dieu, et de conformer notre volonté à celle de Dieu, de la plier à celle de Dieu. Lorsqu'on s'est marié avec Rachel, je sais que, bon, Rachel avait des amis non-croyantes, moi j'avais en tout cas, parce qu'au cours de déménagement, fait le vide autour de moi à ce niveau-là. Et c'est vrai que ses plus proches amis lui avaient fait un procès en disant « Comment vous mariez? Qu'est-ce que ça veut dire ?» etc. Pour des prises de position dont on avait accepté de discuter avec elle, en tout cas de prise de position, comme la pureté avant le mariage, un ordre des choses, on va dire, et puis même de se marier, de se choisir, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était entre guillemets fragile, dans le sens où bon, bah, c'était un pari. On faisait en se disant, on obéissait, on va dire, sans savoir exactement, je veux dire, la suite, quoi. Et c'est vrai que face à toutes ces vagues, ces discussions, tout ça, on avait la paix, mais c'est vrai que c'était pas facile. Et il se trouve qu'aujourd'hui, et c'est pas du tout pour m'en réjouir, au contraire, bien au contraire, il se trouve que l'une d'entre elles, en tout cas, si on garde l'image de la maison, il se trouve que l'une d'entre elles n'a plus de maison, justement. Et on a pu discuter avec elle, et c'est vrai que c'est une prière pour nous encore qu'elle accepte de fonder sa maison sur le roc. Une deuxième image que j'aimerais partager avec vous, c'est que j'ai fait des travaux dans notre maison, et l'année dernière même, j'ai fait un chemin en bois, etc. Et j'ai continué le chemin cette année, je l'ai fini, on va dire. C'est un chemin en bois, donc on avance au fur et à mesure, tout 9 cm par 9 cm et tout. Et en fait, le premier, bon, il ressemble à un chemin. Tous les gens qui ont marché dessus peuvent témoigner pour dire qu'en gros, il nous emmène à l'endroit qu'il faut, à la maison. Et le deuxième, en fait, j'ai dû m'arrêter en plein milieu, parce que si j'avais continué, lui, il m'aurait plutôt emmené dans le mur, vous voyez, c'était pas dans le bon sens qu'il allait. Et je me disais, mais pourtant c'est bizarre, je pensais savoir faire, j'avais opéré de la même façon, etc., etc. Et il s'est trouvé qu'en fait, j'ai fait des erreurs, parce que j'avais oublié une chose, c'est que l'année dernière, je m'étais conformé à des règles de maçon. Pour ceux qui savent, ceux qui ne bricolent pas, des règles de maçon, c'est un objet très, très simple, hein, mais très, très important. Ce sont des règles qui nous assurent d'une rectitude, qui peuvent mesurer, des fois, être assez grands, et qui permet aux maçons, mais qui permet aussi aux bricoleurs amateurs que je suis, par exemple, d'aller droit. Vous voyez, de se conformer, de se plier, et qui fait qu'on récupère toujours, on s'approche de la rectitude. Et c'est vrai que j'avais oublié ça. Et en fait, le résultat, il ne s'est pas fait attendre, ça partait complètement de travers, quoi. Et je m'aperçois même, de toute façon, de manière générale, quand on bricole, que si on agit à notre convenance, si on agit avec nos yeux à nous, simplement nos yeux, hein, je veux dire, avec beaucoup de bonne volonté et en étant, allez, on va dire, patient, quoi. Ça fait déjà deux bonnes conditions pour essayer de réussir quelque chose. Eh bien, ça ne suffit pas, et c'est vrai que souvent, le résultat est tordu. Et moi, je me rappelle qu'avoir posé du carrelage en partant tout bas, en me disant « Bon, ça décale d'un millimètre, qu'est-ce que c'est un millimètre ?» et de me retrouver avec un écart aussi grand que mes mains, au bout d'un mètre, quoi. Et je pense que c'est une bonne image, parce que je trouve que l'homme ressemble bien, l'homme, l'humanité, les femmes aussi, hein, ressemblent bien à ces choses-là. Quand on avance par nos propres moyens, il se trouve souvent qu'on va dans le mur ou que l'on va sur un chemin tordu. Et la promesse de Jésus de construire en tout cas sur le roc est valable pour toutes les composants de notre vie. La famille, le travail, la vie, les projets, comme la construction personnelle. Je pense donc aux adolescents qui sont dans notre église, parce qu'ils sont dans une période de construction. Avec l'obéissance vient l'assurance des bénédictions de Dieu. Et donc, juste pour citer, on peut voir les promesses qui sont dans la Bible, qu'on a le loisir de se saisir. Les promesses ont été faites par exemple à Josué quand il est dit « Tu méditeras jour et nuit pour obéir, observer, donc mettre en pratique tout ce qui est écrit dans la Bible. C'est alors que tu mèneras bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » On peut penser aux rois, vous savez toute cette succession de rois dans le livre des rois qui se succèdent les uns après les autres et puis ceux qui obéissent se démarquent de ceux qui n'obéissent pas parce que justement ils ont une prospérité. Je pense à Ézéchias par exemple ou même le roi Salomon. Et puis il y a le psaume 1 aussi que je peux citer. « Heureux celui qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit, il obéit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme, je peux le doubler de tout ce que fait cette femme, lui réussit. » Alors on arrive au troisièmement. Quels sont les enjeux de l'obéissance ou de la désobéissance dans notre vie? Alors force est de croire que l'obéissance fait partie de notre cursus de disciples. Lorsqu'on croit, lorsqu'on accepte de croire en Jésus, il faut qu'on se prépare à accepter d'apprendre. Jésus lui-même, alors qu'il était le Fils de Dieu, ne faisait que la volonté de son Père. C'est impressionnant de se dire, parce qu'on ne peut pas lui dire qu'il ne savait pas, ou qu'il n'était pas au courant, ce genre de choses. Jésus était le roi de l'anticipation, Jésus avait une omniscience lui aussi, puisqu'il devinait même les raisonnements des uns et des autres. Et bien qu'il ait toutes ces choses-là en lui, dans sa tête, il obéissait, il avait appris à obéir. Il y a un passage qui dit dans Hébreux 5, verset 8, « Bien que fils, Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Alors c'est un verset très complexe aussi, en l'occurrence, ce serait aussi l'objet d'une étude à lui tout seul. Je vais simplement vous dire ce que j'en comprends, pour moi. Ce que je comprends, c'est que même Jésus a dû apprendre l'obéissance dans le sens de l'abandon, a dû apprendre lui aussi à se rendre entre les mains de son Père, alors que, comme je le disais tout à l'heure, il était capable d'anticipation, il savait ce qu'il attendait, il connaissait l'issue fatale de sa vie sur la terre. Il le disait à ses disciples, il le disait même à qui voulait l'entendre. Je relèverai le temple, je vais passer par un baptême que vous ne pouvez pas prendre, je serai élevé, etc. Donc il le disait qu'il allait mourir, il le savait. Mais malgré ces choses-là, malgré cette science qu'il avait, il a accepté l'obéissance qui consistait à s'en remettre entre les mains de Dieu. Et si, je sais pas si, enfin moi en tout cas, j'ai réalisé que Jésus a prié pour pas mourir. Jésus a prié pour que ça ne se fasse pas, pour que s'éloigne de lui cette coupe. J'avais pas toujours réalisé, c'est vrai que quand on relit, l'Esprit de Dieu est là aussi pour nous accompagner dans toutes ces causes. Mais Jésus a lutté quelque part, il a lutté pour pas obéir, mais finalement il a capitulé en disant « ta volonté et non la mienne ». Et de cette même façon, nous sommes appelés en tant que disciples à apprendre l'obéissance, celle-là, cette obéissance où on capitule, on laisse, on arrête. Et il y a cette obéissance facile, quelque part, qui nous demande d'agir, faites, aimer, pardonner. Bon, je dis facile entre guillemets, on est bien d'accord. Mais il y a cette obéissance qui comporte ce lot de souffrances, de difficultés, cette obéissance qui nous coûte parce que c'est dans la tempête. Il faut obéir alors qu'on est dans la tempête. Il faut obéir parce qu'on souffre, alors qu'on souffre, pardon. Il faut obéir alors qu'on n'a pas le droit de s'exprimer. Il faut obéir alors qu'en fait, l'image de Dieu ou l'idée même de Dieu, elle est combattue, elle est niée, elle est moquée. On prie souvent pour l'Église persécutée, mais il y a aussi l'Église persécutée dans le monde, mais il y a aussi des chrétiens persécutés en France ou même dans notre quotidien. On est persécutés des fois parce qu'on obéit à Dieu, on aime, on pardonne, on accepte de perdre une bataille, entre guillemets, parce que voilà, on ne va pas toujours se venger sans arrêt, etc. Et dans ces moments-là, à l'image de Jésus, obéir, ça veut dire avancer sans voir. Obéir, dans ces moments-là, ça veut dire qu'on va, on avance sans savoir où excuse-moi, je l'ai répété, où on agit, pardon, sans connaître les raisons, sans connaître l'aboutissement, sans voir la conclusion. On aime bien savoir faire, on aime bien connaître avant de faire les choses, anticiper, etc. Mais obéir, ça peut vouloir dire ça à un moment, cet abandon-là en tout cas. Et on s'abandonne dans les bras de Dieu. Willy l'a dit tout à l'heure qu'elle s'est abandonnée dans les bras de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu dans ces choses-là, dans l'abandon, dans l'obéissance, il y a un enjeu. Et je vais vous dire au moins ce qu'il en est, par exemple, quand on lit le psaume 23. Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il dit entre autres « Il me fait reposer, il me conduit ». Toutes ces choses-là qui sont très belles. Oui, certes, mais à quelles conditions ? Si on obéit à ce berger, si on se plie à la volonté du berger, un berger est là pour conduire. Et si on ne le sait pas conduire, on n'accède pas à ces choses-là. Donc c'est un défi pour nous aujourd'hui. Et la promesse est là aussi, heureusement. Jean 14, verset 23-24, « Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Mon Père l'aimera. » Je l'ai dit tout à l'heure, « Nous viendrons à lui et nous habiterons chez lui. » Et donc au bout de notre capacité à obéir à Dieu, il y a l'enjeu de faire la volonté de Dieu, d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Si Jésus, imaginons deux minutes que Jésus ait refusé d'accomplir la mission que Dieu lui avait donnée de faire, on ne serait même pas là. On serait toujours au bénéfice du châtiment divin parce qu'on est pécheur. Et dans l'épisode de Saül, Samuel a une parole forte, puisque je viens de parler du fait de ne pas obéir, on appelle ça aussi la désobéissance, et Samuel a une parole très forte, dans le même passage d'ailleurs de l'épisode de Saül. Il dit « La désobéissance est aussi grave que la divination, le fait de trafiquer avec les morts, les esprits, toutes ces choses-là, et l'insoumission, qu'on peut aussi traduire par la rébellion, est aussi grave que l'idolâtrie. » Voilà ce que ça fait à Dieu. Et c'est vrai que ne pas obéir ou désobéir à Dieu, nous devons en avoir conscience. Mais désobéir nous expose à la colère de Dieu. Et de nombreux exemples dans l'Ancien Testament, on peut le rapporter, quand le peuple désobéissait, il y avait une conséquence terrible, souvent la mort, souvent la déportation, souvent le fait d'être livré à d'autres peuples, d'être esclave. Il était question dernièrement dans un message de Géasi, le serviteur d'Élisée, qui a eu la lèpre, et même Saül, il y a perdu beaucoup, et même Élie, le grand prophète, qui a finalement désobéi à Dieu en ne reprenant pas ses fils, qui est mort aussi d'une autre façon. C'est vrai donc que ne pas obéir ou désobéir nous expose à la crainte, à la peur. Je pense aux disciples lorsqu'ils étaient sur la tempête, ou à toutes les fois où ils n'ont pas obéi. Ils étaient dans l'angoisse, dans le doute, et donc dans l'incrédulité, parce que notre vue d'homme est limitée. Et puis, il y a aussi un autre enjeu, c'est que, en tant que croyants, nous devons bien prendre conscience qu'on a changé de gouvernement. Là, on vient de le vivre, là. En tout cas, on est en train de le vivre en ce moment, on a changé de gouvernement. Mais c'est vrai que notre ancien maître, notre ancien gouvernement à nous, c'était quoi? C'était nous-mêmes, c'était le péché, c'était donc le mal, quoi. Et je vais simplement reprendre un passage courtement avant d'aller vers la conclusion, rassurez-vous, qui se trouve dans l'épître aux Romains que Paul a écrite au chapitre 6. Et donc il est question courtement de ce passage, encore un passage assez consistant, je ne lirai qu'une seule partie. « Vous savez très bien qu'en vous mettant corps et âme au service de quelqu'un, vous êtes tenu de lui obéir et d'accomplir toutes ses volontés. Vous devenez ainsi effectivement esclave du maître auquel vous vous êtes voué et que vous avez choisi de servir. Il en est de même de vos relations avec le péché ou avec Dieu. Ou bien vous servez le péché et vous allez à la mort, ou bien vous obéissez à Dieu et vous trouvez une nouvelle vie. Maintenant, tout est changé. C'est ça notre actualité. Maintenant, tout est changé. Nous sommes affranchis de l'esclavage du péché. Vous n'avez plus aucune obligation envers lui. C'est Dieu qui vous a engagé comme serviteur. Votre récompense actuelle, c'est de lui appartenir toujours davantage, en progressant dans une conduite toujours plus conforme à sa volonté, dans l'obéissance. Les fruits que vous portez, ce sont des actions qui le réjouissent. Plaît à Dieu. Et au terme de votre route, c'est là aussi que c'est beau de... J'ai oublié de le dire, mais c'est vrai qu'obéir, c'est être sauvé. Et au bout de cette route, nous avons la vie pour toujours. Car si la solde payée par le péché à ses esclaves, c'est la mort, Dieu nous offre comme cadeau gratuit une vie céleste de résurrection en communion avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors je vais conclure, simplement en rappelant quelques points. C'est que si la foi, c'est le moyen d'accéder aux choses de Dieu, on se saisit des choses de Dieu par la foi, l'obéissance semble en être le complément qui nous aide à vivre ce chemin de foi. Et j'ai envie de dire, sans faire de jeu de mots, la seconde nouvelle nature du chrétien. Le chrétien obéit, mais il obéit à Dieu seul. Jésus en fait une condition, obéir, pour entrer dans le royaume de Dieu, être sauvé. Obéir, c'est croire et être sauvé. Parce que c'est de cette façon qu'on devient citoyen du royaume des cieux. On peut regarder le royaume des cieux de loin, de même qu'on regarde le festival de Cannes en apercevant les stars de loin, comme ça on peut voir Jésus de loin, ne jamais en être. Et bien là, en fait, il y a possibilité de devenir un citoyen du royaume de Dieu. Et puis j'ai envie de dire que, à l'image du liquide qui révèle le papier photo, quand on prend une photo, il faut du liquide pour que la photo se révèle. J'ai l'impression que ce liquide qui révèle notre vie de croyant, c'est l'obéissance. Sans l'obéissance, sans la soumission, sans la dépendance au commandement de Dieu, nous restons sur le seuil. sur le seuil de tout ce que Dieu a préparé pour l'homme. Le salut, en premièrement, le pardon des péchés, qui procure la paix, la présence de Dieu, notre assurance donc, parce que c'est vrai que dans ce monde, si nous n'avons pas Dieu, si nous proclamons chrétiens sans être accompagnés par Dieu, on ne vaut rien, on est pinos, comme on dit en anglais. Notre identité, donc, sans l'obéissance, Dieu n'est pas notre force, Dieu n'est pas notre paix. Et tout ce qui fait la richesse de la vie avec Dieu reste sans effet sur notre vie à nous. Être chrétien, à un moment donné, c'est aussi accepter d'obéir. C'est simple, certes, mais c'est obéir des fois sans condition, en toute soumission, en toute confiance, sans l'ombre d'un doute, même dans la tempête. Finalement, quand on y regarde, les disciples qui se sont retrouvés dans la tempête se sont retrouvés parce qu'ils ont obéi. Jésus leur a dit « Allez de l'autre côté ». Et c'est parce qu'ils étaient donc parce qu'ils ont obéi qu'ils se sont retrouvés dans cette tempête. Et puis, gardons en mémoire l'image de Jésus qui a obéi face à la mort qui l'attendait. Et notre part à nous, je vous laisserai donc sur ces deux dernières phrases, notre part à nous est bien de nous comporter comme des enfants de Dieu. Parce que quand on est enfant, il est naturel d'obéir à son père, ou en tout cas à sa mère. Il faudra vous expliquer ça à ma fille aussi et à mon fils. Mais quand on est enfant, il y a en nous quelque part le désir de faire bien. Et nous sommes les enfants de Dieu. Alors pour nous, ça doit être naturel de vouloir obéir à Dieu. Il dit dans l'Épître aux Galates, « Parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, qui dit à Abba Père, Dieu travaille notre esprit pour que nous ayons ce réflexe d'enfant vers Dieu notre Père. » Et entre autres soucis qu'un père a pour ses enfants, c'est de bien le nourrir. Pourquoi ? Pour qu'un enfant grandisse, pour qu'un enfant évolue. C'est le souci que j'ai pour mes enfants. Et je pense, de toutes mes forces, je pense que Dieu, puisqu'il dit qu'il est notre Père, a ce souci pour nous de nous faire grandir, de nous voir croître, de vouloir prendre plaisir à nous. Et je le répète, pour finir, et là c'est tout, c'est pour de bon, à une seule condition, c'est que nous obéissions.